propose une lecture pour aujourd'hui dans l'Évangile selon Marc. Si vous suivez les lectures de la Bible en 6 ans, celles qui vous sont proposées dans notre journal régional, dans Parole protestante, nous commençons maintenant, en ce début d'année, l'Évangile selon Marc. Je lirai donc au premier chapitre, Marc 1, les versets 29 à 39. Ils quittèrent la synagogue et allèrent aussitôt à la maison de Simon et André, en compagnie de Jacques et Jean. La belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha d'elle, lui prit la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, les gens amenèrent à Jésus tous les malades et ceux qui étaient possédés par des démons. La ville entière se dressait à la porte de la maison. Jésus guérit beaucoup de gens, atteints de toutes sortes de maladies, et il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne laissait pas parler les démons parce qu'eux savaient qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube et sortit de la maison. Il s'en alla dans un lieu désert et là il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Quand ils le trouvèrent, ils lui dirent « Tout le monde te cherche !» Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, pour que là-bas aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis venu. » Et il parcourut toute la Galilée. Ils proclamaient la bonne nouvelle dans leur synagogue et ils chassaient les démons. La première chose que Jésus fait en sortant de la synagogue, c'est-à-dire en sortant du lieu où on réentend, en déroulant le rouleau d'un prophète, peut-être Jérémie et Ésaïe ou un autre, et qu'on en entend le commentaire pour ce jour-là, la première chose qu'il fait en sortant de là, c'est de s'occuper de ceux qu'il croise à ce moment-là, attentif à leurs besoins. Les versets d'aujourd'hui montrent une succession d'actions. Il est question de guérison, de libération essentiellement, et ces actes concernent également des proches. Il y a ceux qui se rendent proches de Jésus parce qu'ils viennent le chercher, et puis il y a ceux dont les proches sont un sujet d'inquiétude. La belle-mère de Simon, par exemple, et tous ceux qui viennent en plus un peu plus tard, le solliciter à la tombée de la nuit. Comme souvent, le retour de la santé ou l'expulsion des mauvais esprits n'est jamais un objectif en soi. Ces miracles ne sont pas spécialement spectaculaires, et c'est surtout le vocabulaire utilisé par Marc qui renseigne sur l'intention réelle de Jésus. Marc choisit des mots comme « être couché »,« faire lever », dans des expressions bien choisies qu'on retrouvera au moment de la passion, sans s'attarder sur l'aspect simplement médical des choses, mais en soulignant plutôt un véritable changement d'état, de la position de la mort ou du sommeil à la station debout, de la mort à la vie, si vous préférez. C'est déjà, tout au début de l'Évangile, dès le premier chapitre, un récit de résurrection dans lequel Marc annonce toutes les résurrections et libérations futures. Ce vocabulaire, chez Marc en tout cas, est déjà présent. Pour le Jésus de Marc, traverser la vie de ceux qu'il rencontre, c'est, autant que possible, dans toutes les circonstances possibles et imaginables, faire passer de la mort à la vie, avant même qu'il soit question de sa propre résurrection à lui. Ça viendra plus tard. Ces allusions à la résurrection auraient pu arriver, c'est vrai, plus tard dans son ministère, pourrait-on penser. Il n'y a pas urgence, sauf si la résurrection évoquée déjà ici est la manifestation au cœur de la vie d'un programme à la fois simple et urgent. Il faut en parler et il faut en parler tout de suite. Si la résurrection intervient si tôt, si Jésus, si vous préférez, s'empresse d'en faire son ministère dès les premières paroles et les premiers gestes qu'il fait, après avoir recruté ses disciples, c'est qu'elle a à tout moment de l'existence le sens de survivre à sa propre mort. Même si c'est une mort annoncée, lointaine et que notre vie ne semble pas, a priori, menacée à l'instant même où on évoque cette résurrection. Ça n'a pas d'importance. C'est une résurrection à effet immédiat tant que la vie est là. Ressusciter, c'est prendre sa vie d'une certaine manière, s'en rendre responsable, en prendre soin, comme on prend soin d'une jeune pousse qu'on sait un jour devenir un arbre. La résurrection est une attente confiante à la racine même de ce que nous appelons la foi. Finalement, si Jésus l'évoque déjà aussitôt, par petites touches, certes, mais avec une réelle efficacité dans la vie des autres, c'est qu'elle est peut-être son unique message dès ce moment-là. Viendront après d'autres guérisons, des esprits seront encore chassés pour que leur envahissement nocif n'abîme plus la vie de tel ou tel. Des paraboles essaieront d'expliciter ce royaume des cieux qui n'est pas autre chose que notre propre vie rendue à sa vocation première. Et puis, tout à fait à la fin, comme pour compléter l'explication, il y aura le tombeau vide pour marquer le refus de laisser la vie sombrer dans les profondeurs, pour marquer l'acharnement à rattacher la vie à un Dieu qui nous attire vers la vie aussi sûrement qu'il nous attirait de la glaise. Dans ce début de ministère, Jésus a trouvé une démonstration de ce qu'est la résurrection. Démonstration bien plus simple, bien plus convaincante que nos propres explications, qui seraient certainement embarrassées dès que nous nous sentons libérés de ce qui nous entraîne vers le fond, vers la mort. Notre vie est comme mue ou mobilisée par ce courant. Cette première démonstration aurait pu être plus discrète, puisqu'on compare souvent Jésus à d'autres fondateurs de religion ou d'écoles de pensée. Il aurait pu transmettre le programme de la résurrection à une poignée de disciples triés sur le volet, leur demander de transmettre cette doctrine sublime à des cercles progressivement de plus en plus larges, au fur et à mesure que l'idée faisait lentement son chemin dans les têtes. Mais la résurrection n'est pas une doctrine ou une idée, fût-elle sublime. Son cheminement n'est pas limité à ce qui se fait dans nos cervelles. Et puis, nous le savons bien, les disciples n'ont sûrement pas été triés sur le volet, puisqu'ils étaient totalement ordinaires. Jésus a préféré montrer que la résurrection est une chose à vivre et qu'elle est de surcroît d'utilité publique. Tout le monde le voit. C'est fondamental, tout le monde doit le savoir et il faut commencer tout de suite, semble dire Jésus à travers ses peu nombreuses paroles et ses gestes abondants. Le caractère public de la guérison montre une volonté de toucher le plus grand nombre possible, c'est vrai. Mais l'exorcisme de nuit a aussi pour objectif de débusquer les pires choses au pire moment d'une journée. La nuit, c'est le lieu de la peur, de l'aveuglement, de l'absence de relief, c'est-à-dire de perspective. Si Jésus chasse les démons à cette heure-là, c'est parce que la réalité de la résurrection doit atteindre nos pires ennemis, alors même que nous ne sommes plus capables de les voir, à un moment où nous ne les combattons même plus, faute de volonté, d'énergie ou de moyens. Pour ceux qui assistent à ces exorcismes, c'est une nouveauté radicale, puisque dans la mentalité de ceux qui écoutent à ce moment-là, Dieu lui-même a pu être considéré comme absent pendant la nuit, comme éclipsé momentanément par des forces mauvaises. Ils l'ont cru longtemps. L'intervention de Jésus leur dit le contraire. Vous n'êtes pas abandonnés dans ces heures sombres, dans toutes les épreuves symbolisées par la nuit. Au contraire, je vous y rejoins. C'est comme si la résurrection se frayait un passage dans une zone inexplorée. Comment s'étonner qu'elle puisse un jour encore entrer dans une tombe pour y contrarier la mort, ou plutôt réaffirmer une vie toujours appelée à se relever malgré la mort. Mais avant d'en arriver là, les guérisons et les exorcismes rapportés par Marc doivent d'abord montrer la possibilité de guérir des relations malades, un rapport à Dieu faussé parce que submergé par nos habitudes, de nous le représenter comme ça nous arrange, pour que cela nous rapporte quelque chose en particulier. Un rapport aux autres aussi très faible, voire inexistant, parce que les autres ont très souvent disparu. Ce sont ces pathologies très fréquentes que l'action de Jésus ici cherche à soigner d'abord et avant tout. Les démons évoqués dans nos versets ressemblent tellement à toutes les circonstances pénibles et dangereuses que nous traversons parfois en doutant qu'une libération soit possible. Dans ces cas-là, notre volonté et notre raison sont momentanément impuissantes, comme si elles étaient elles aussi éclipsées, en sommeil, au cœur d'une sorte de nuit, nous laissant seuls face à des crises dont nous ne voyons même plus l'ampleur. C'est dans ces moments-là que nous risquons le plus de sombrer. Une vie que nous ne maîtrisons plus, un enfermement si parfait que rien ne semble pouvoir le rompre. Et puis la nuit s'achève, et fait remarquable, Jésus déplace à nouveau ses disciples le lendemain matin, et ceux qui veulent le voir aussi. Ils attendent une nouvelle guérison, un nouveau miracle, et lui répond « Allons ailleurs, dans les villages alentours. » Voilà une manière expéditive de les mettre tout de suite en responsabilité. D'autres vies que les vôtres sont atteintes, abîmées, même en perdition, au bord du gouffre. Les ennemis de la vie ne sont pas combattus et finalement vaincus comme par miracle. Il faut aussi aller les débusquer là où ils sont, comme je l'ai fait cette nuit. Au moment où Jésus emmène ses disciples, c'est un jour nouveau, au sens fort du terme, non pas simplement un jour de plus, semblable au précédent et au suivant, mais un jour différent, où même la nuit n'est plus un refuge pour ce qui nous blesse ou ce qui nous tue. La résurrection, comme promesse, est déjà passée par là, et nous n'en sommes qu'au premier chapitre. Un véritable miracle, donc. Le miracle de ce texte, c'est de parvenir à convaincre des humains vulnérables que la nuit a en quelque sorte disparu. Le lieu de leur peur, là où le sentiment d'abandon est le plus fort, ce lieu-là est percé d'une lumière nouvelle. Nous pensions être en quête d'une résurrection à venir avec une succession de nuits terrifiantes à traverser. En réalité, nous avons une résurrection à vivre tout de suite, même et surtout au cœur de nos obscurités. Une résurrection à effet immédiat tant que la vie est là. Amen.